Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize. Sur Radio Immo.
Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre, rebonjour si vous êtes avec nous peut-être depuis ce matin, 9h, sur le plateau de Radio Immo, ça n'arrête pas, nous avons reçu énormément d'acteurs de l'immobilier et ça se poursuit. Et d'ailleurs, j'ai la chance de ne pas poursuivre toute seule puisque Fabrice Coustet m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fabrice.
Bonjour Johanna, bonjour à tous.
Vous êtes très en forme.
Mais
cet après-midi.
Bien sûr, pour moi c'est le premier jour, donc je suis encore en forme.
Ça arrive, c'est ceux qui arrivent au MIPIM, on verra demain si vous avez toujours cet entrain. Et j'espère que lui aussi a de l'entrain. Bonjour David Abrias.
Bonjour, ça va, jusque là ça va.
Super, vous êtes le directeur général et président du pôle architecture de Cardam. Alors évidemment, on connaît très bien Cardam sur Radio Immo. Est-ce que pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, vous pourriez représenter les activités du groupe Cardam?
Bien sûr, donc le groupe Cardam c'est un groupe français. Un peu plus de 450 personnes qui intervient sur différents métiers de l'immobilier, depuis le conseil, l'architecture, le design d'espace, l'ingénierie et le digital. Voilà, on est présent sur toute la France et on a quelques ramifications internationales et depuis un petit mois, une présence en Allemagne.
Un spectre très large donc qui vous permet finalement d'être présent à plusieurs phases de la vie de l'immobilier.
C'est ça.
Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Comment vous prenez un peu la température sur ce MIPIM? Vous êtes content d'être là? Ça se passe bien?
Alors, content d'être là, oui. Je crois que tout le monde est content d'être là parce qu'on attendait quand
ça
même...
Ça faisait longtemps.
On attendait déjà d'enlever les masques, de reconnaître les gens qu'on croise dans les couloirs. C'est pas mal. Et voilà, tout le monde prend ça comme un signe de redémarrage et d'optimisme de l'activité. Alors, malheureusement, l'actualité va un peu contrecarrer cet élan, mais bon, en tout cas il y a de l'envie, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les couloirs du MIPIM.
Quelles sont justement les grandes thématiques là, de cette année 2022, donc post-crise sanitaire? Cette ville, en tout cas dans les territoires, elle est de plus en plus résiliente, elle est de plus en plus sobre, elle est de plus en plus dans la transition durable. C'est des mots un peu qu'on entend, qu'on voit comment ça s'incarne chez vous, chez Cardam. Dans les nouveaux projets.
Alors, c'est des mots qu'on entend, mais c'est des choses qui deviennent très concrètes. Hein. C'est vraiment une année de transition, je pense, 2022, puisque on a un changement de réglementation environnementale, donc la RE 2020 qui commence à s'appliquer depuis le début de l'année, qui va progressivement s'appliquer à différents domaines. Donc ça, c'est un changement fondamental qui va vraiment impacter nos manières de concevoir et de construire les projets. C'est déjà le cas. Donc on a lancé beaucoup d'expérimentations, déjà dans le cadre de Le Plus C'est Moins avant ça, et puis aujourd'hui pour être capable de mesurer précisément l'impact de ces évolutions sur nos projets. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Et puis au niveau de la ville, on a le zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience, qui est là aussi un changement de philosophie fondamental qui, je pense, dont les collectivités locales sont en train de prendre la mesure. Je ne pense pas qu'elles aient complètement encore détouré le problème, mais qui va radicalement changer notre approche du foncier. Donc c'est un virage très très net que tout le monde ressent et voilà, qui vient rajouter un peu de piquant dans cette période où on a quand même beaucoup d'incertitudes.
Alors ce virage, justement, puisqu'on ne peut plus artificialiser, il va falloir bâtir la ville sur la ville, on en parle beaucoup, intensifier, hybrider peut-être, comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a des grands projets sur lesquels vous travaillez, vous êtes peut-être en appel d'offres qui seront sur cette nouvelle thématique?
Oui, c'est des choses qui avaient été déjà initiées depuis quelques temps. On travaille beaucoup sur des projets mixtes de plus en plus, hein, aujourd'hui, les thématiques qu'on voit émerger, au-delà de la reconstruction de la ville sur elle-même, qui était déjà quelque chose de relativement bien initié dans les grandes métropoles, pour des raisons de prix du mètre carré. Hein. Depuis les années 2000, on commence à avoir ce genre de logique. Ça déborde sur des métropoles de taille intermédiaire. Mmh. Et ça vient questionner des typologies de quartiers, notamment toutes les entrées de ville, les zones commerciales, qui sont des réservoirs de foncier et de surface, très peu efficaces, très peu bâties, et souvent avec une faible qualité urbaine. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on commence à travailler beaucoup, et je pense qu'ils vont amener des nouvelles organisations de projets et peut-être des changements plus profonds au-delà de simplement les types de bâtiments. Je crois qu'il y a aussi des investisseurs qui sont en train de se structurer sur ces sujets-là, des véhicules juridiques. Donc c'est là aussi l'évolution est en marche et il va bien falloir de toute façon être capable de répondre à la demande avec un foncier qui, et c'est bien normal, qu'il va falloir économiser parce que c'est une ressource finie.
Parce que tout s'intervertit, vous avez parlé des gens qui vont vivre un peu plus loin en périphérie, mais il y a aussi tout cet immobilier tertiaire, je pense notamment à la logistique, qui elle se rapproche des centres-villes.
Oui, et puis qu'il va falloir tisser de plus en plus avec la ville. Alors on a beaucoup parlé de la ville du quart d'heure, il va falloir un petit moment avant qu'on arrive à la ville du quart d'heure, puisqu'on vient questionner toute la question des mobilités et des sujets structurants. Mais ça veut dire voilà, qu'il faut raisonner des environnements programmatiques beaucoup plus hybrides que ce qu'on avait pu connaître jusque-là, et on commence à le faire. On a des zones où on vient superposer de l'activité légère ou un peu lourde, de la logistique avec du bureau et puis du logement au-dessus. Voilà, c'est les choses qu'on est en train de commencer à faire avec toute la complexité que ça sous-entend en termes de mélange de flux qu'on essaie de pas trop faire se rencontrer. Et puis une acceptabilité de ce type de projet qu'il faut aussi beaucoup travailler pour les rendre déjà compréhensible et expliquer la nécessité de ce type de démarche et puis que ça vienne apporter une valeur ajoutée dans les centres-villes.
On illustre un peu par votre récente réalisation. Vous venez de livrer un immeuble de bureau éco-responsable à Sofia Antipolis, pas très loin d'ici. Comment ça se présente là, ces nouveaux bureaux? Qu'est-ce que c'est un bureau d'ailleurs éco-responsable, David Abrias?
Alors un bureau éco-responsable, c'est déjà un bâtiment qui est éco-conçu. Ça veut dire qu'on va utiliser au maximum l'environnement, l'orientation, l'utilisation dépend. Donc on va vraiment agir de façon contextuelle par rapport à un bâtiment. On sait aujourd'hui être très très optimisé sur les apports solaires, le rapport entre ces apports solaires et le besoin de lumière dont on a besoin dans les bâtiments pour le confort des utilisateurs. Et puis c'est aussi les bons matériaux aux bons endroits pour être aussi économe qu'on peut. Voilà, il faut mettre ce qu'il faut, mais pas trop. Et ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'optimisation. C'est beaucoup de choix des matériaux, voilà, c'est des choses qui sont très raisonnées, beaucoup discutées avec nos maîtres d'ouvrage pour trouver le bon dosage.
Est-ce que vous le faites parce qu'il y a les réglementations qui sont de plus en plus contraignantes? On a parlé de l'ARE 2020 qui arrive, je pense au décret tertiaire également qui va demander aux bâtiments tertiaires d'être plus économes, moins énergivores. Ou est-ce qu'il y a une véritable demande des investisseurs qui veulent des bâtiments parce que ces bâtiments vertueux se revendent mieux?
Vous voudriez dire que ce ne serait pas complètement sincère, c'est pas joli. Non, mais c'est sûr que, enfin, vous avez raison, il y a eu toute une période où il y avait une chasse aux labels environnementaux parce que c'était une chasse à la médaille. Il fallait le faire. Il y avait des sous-jacents de communication qui étaient importants. De plus en plus, maintenant, à la fois les investisseurs et les utilisateurs ont des politiques et des stratégies RSE et il s'agit d'être en conformité avec ça. Et c'est d'ailleurs un gros pan de notre activité depuis quelques temps, c'est d'arriver à mettre en corrélation une réglementation qui est de plus en plus compliquée, avec des choses qui s'empilent et qu'on a du mal à interpréter, pour rendre ça cohérent avec des vraies stratégies environnementales et sociales de nos clients. Et ça rend la chose beaucoup plus intéressante d'ailleurs, parce que de respecter strictement un label qui est une version un peu moyennisée, souvent qui se focalise sur un aspect environnemental précis, nous, on pense que c'est plus intéressant d'avoir une vision un peu plus large et d'être cohérent. Et là aussi, de pouvoir agir dans son environnement. Ça, c'est super de faire des immeubles en bois, mais il ne faut pas que le bois vienne de l'autre bout de la planète. Donc on essaie d'amener cette cohérence et surtout, et ça, c'est très important, mettre ça en ligne avec les stratégies de nos clients parce qu'on considère que d'être dans une posture de responsabilité, quand on est un investisseur, un utilisateur, c'est aussi important. Il faut qu'on sorte du mythe où c'est au pouvoir public de donner la cadence, de donner la réglementation, et puis ça évite de se poser des questions. Non, on peut aussi concevoir de façon plus cohérente, plus intelligente, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir.
D'autant, David Abrias, qu'on rappelle que 80% de la commande aujourd'hui est privée. Hein. On n'est plus sur un donneur d'ordre public, c'est ça part du privé. Tiens, justement, toujours dans l'actu, on a RTE, donc le gestionnaire du réseau électrique à haute et très haute tension, qui a décidé d'investir le quartier des Fabriques à Marseille. Et là aussi, vous êtes partie prenante de ce projet.
Oui, c'est un beau projet qui va s'inscrire dans Euromed, qui aussi, lui, a un cahier des charges environnementales qui est important du fait de la zone et puis du fait de l'utilisateur final qui est RTE, qui évidemment et aux premières lignes des sujets énergétiques et environnementaux.
Sujet brûlant du moment, oui, effectivement. Avec la flambée.
Sujet brûlant du moment. Donc voilà, donc c'est très intéressant pour nous de pouvoir travailler sur ce type de projet, parce que pour arriver à faire des projets ambitieux, il faut que l'ambition elle soit partagée par tout le monde, à la fois par les collectivités locales, et c'est le cas sur Euromed, par le client final et par les promoteurs et investisseurs avec lesquels on travaille. Et là, je crois qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement... extrêmement poussé et du coup un projet architectural intéressant.
Voilà, avec Bouygues Immobilier et Link City qui sont également dans la boucle. Juste avant l'émission, vous nous disiez justement, on a cette transformation des projets, etc. Mais on peut regretter néanmoins pour ce cru 2022 du MIPIM qui n'est pas finalement de projet phare comme on a pu voir, peut-être de nouvel élan. Expliquez-nous.
Il y a moins, c'est sûr qu'on sort d'une période qui a été évidemment très compliquée, qui a été, je crois, marquée par la difficulté à prendre des décisions à tous les niveaux. Les investisseurs, les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, quand on se fait construire un immeuble de bureau ou quand on rapatrie une activité industrielle, on se pose la question à deux fois parce que l'avenir est incertain et il l'est malheureusement de plus en plus. Donc c'est sûr que ça a sans doute un peu bloqué cet élan-là. En même temps, il y a quand même des choses qui se passent parce que tous les gros acteurs du tertiaire qui justement ont retardé des décisions pendant longtemps aujourd'hui sont obligés de faire face à des évolutions éventuellement de leurs effectifs, de leur stratégie, de leur attractivité, de leur capacité à attirer des talents. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le tertiaire à cause de ça. Et on commence aussi à mesurer une réelle tendance à la réindustrialisation. On en avait parlé, c'était un peu théorique, parce qu'on se rendait compte que c'était difficile de dépendre de différents pays avec qui on pouvait éventuellement avoir des relations parfois mitigées. C'est le cas, donc on commence à constater ça. On travaille sur beaucoup de projets industriels. Et ce qui est très très intéressant, c'est ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on commence à travailler sur des projets industriels qui vont eux aussi s'approprier une dimension environnementale très forte et aussi une dimension RSE dans le sens bien-être et capacité à se rendre plus agréable pour les utilisateurs. On a un très beau projet en ce moment pour un gros industriel où on est en train d'intégrer dans un bâtiment... typiquement de process, de ramener des éléments d'échelle pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions, ramener de la lumière, ramener des matériaux chauds, du bois, ce qu'on ne faisait pas du tout dans le monde industriel, en se disant maintenant il faut être capable aussi de fidéliser des équipes sur ces métiers-là, de leur donner des envies et des perspectives, et puis aussi être en cohérence avec des stratégies RSE, et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Donc la période est certes compliquée d'un point de vue de la prise de décision, il y a plein d'opportunités et il faut se réinventer, c'est ce qu'on aime dans ce métier.
Pour terminer sur une note positive, David, est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste dans l'immobilier pour cette année 2022?
On a toujours des raisons, il faut être très optimiste.
C'est quand même celle de la reprise.
Pour travailler dans l'immobilier. Oui, tout le monde a à la fois très envie que ça redémarre et il y a beaucoup de choses qui redémarrent et puis tout le monde a aussi des inquiétudes sur plein de sujets, on en parlait tout à l'heure, le prix des matériaux, les appros, tout ça rend les projets complexes, mais il y a de l'envie et je crois qu'aujourd'hui, notamment au niveau des territoires et on le voit sur tous les stands des territoires, il y a une énergie qui est insufflée dont tout le monde a envie de participer à cet élan.
Merci beaucoup David Abrias
pour
toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général et président du pôle architecture du groupe Cardam. C'était un plaisir de vous recevoir. Fabrice, merci beaucoup. Vous restez bien avec nous puisque ce n'est pas terminé sur Radio Immo pour ce deuxième jour du MIPIM. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. À tout de suite.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize sur Radio Immo.